blues.
Le blues, c'était sa vie.
C'était sa vie.
Elle avait le blues.
Elle avait le blues.
Dès qu'elle se levait le matin. Et jusqu'à ce qu'elle se couche le soir. C'est de l'impératrice du blues dont on parle ce soir sur Nola Radio. Bessie Smith. Son nom, c'était Bessie. Juste Bessie. Pas Elisabeth. Elle portait Evening in Paris, un parfum capiteux à la mode des années 20. Bessie Smith, née à Chattanooga, Tennessee. C'était peut-être le 15 avril 1894, mais on n'en a pas la certitude. Si, pendant l'esclavage, les Blancs du Sud recensaient soigneusement leur cheptel, 30 ans après son abolition, ils ne se souciaient plus de tenir des registres. Alors, quand un enfant naissait dans une maisonnée noire, celui de la famille qui savait écrire, ou à défaut un voisin plus instruit, inscrivait son nom dans le bon livre de la famille, la Bible, qui faisait office de registre de naissance. Ça pouvait prendre un certain temps. Et il semble qu'en plus, Bessie ait aimé se rajeunir et qu'elle montait allègrement sur son âge. Dire qu'elle naquit dans la pauvreté est un euphémisme. D'ailleurs, à ce degré, on parlerait plus volontiers de misère. Son père, William, était ouvrier. Il faisait de longues journées avant de se rendre à la mission baptiste où il prêchait. Sa mère, Laura, mit au monde 7 enfants, dont l'un mourut avant que Bessie n'ait 10 ans. Dans le quartier où elle vivait, Blue Goose Hollow, le quartier noir de Chattanooga, les rues n'avaient pas de nom. Elle ne connut presque pas son père, disparu peu de temps après sa naissance, et assez peu sa mère, qui mourut quand elle avait 9 ou 10 ans. C'est la sœur aînée de la fratrie, Viola, qui éleva Bessie, Tiny, Lulu, Andrew et Clarence, avec son maigre salaire de blanchisseuse. Bessie pense-t-elle à sa sœur quand elle enregistre le blues de la lavandière, Washwoman's Blues, avec Porter Granger, Bob Fuller et Ernest Elliott en 1928 à New York? À 9 ans, au lieu de rentrer directement de l'école, Bessie chante et danse au son de la guitare de son frère Andrew dans les rues de Chattanooga. On les voit souvent devant le White Elephant Saloon dans la 9e rue. Roublarde, elle a déjà compris que plus les gens boivent, plus ils sont généreux. Elle a l'intelligence de la rue. Street smart. Quand on lui donne une bonne pièce, elle apostrophe l'auditeur avec humour, lui lance une réplique cocasse. Bouffonne, elle sait déjà s'y prendre avec les gens, se mettre un public dans la poche. Elle joue aussi au théâtre. Et son premier salaire hebdomadaire de $8 passe dans une paire de patins à roulettes, ce qui lui vaut une sévère raclée. $8, pour cette famille, c'est une somme énorme. La petite Bessie s'en fout. Elle finira par remporter le championnat de patins à roulettes de l'État. À l'époque, des troupes de vaudeville sillonnent le sud et même parfois le nord des États-Unis, proposant des divertissements populaires où se mêlent musique, danse et comique. Clarence, son frère aîné, se fait embaucher comme clown dans l'une de ses troupes. Quelques années plus tard, Bessie part à son tour. Pendant des années, elle joue tous les soirs. Elle chante, elle danse, elle raconte des blagues. Elle est lancée. C'est à cette école qu'elle perfectionne sans doute son talent de chanteuse. Elle apprend comment poser et projeter sa voix en tenant compte de l'acoustique de la tente de fortune, de la salle de concert mal insonorisée. Comment tirer parti de l'espace scénique, allier la danse au chant, au théâtre, à la farce, selon les besoins du spectacle.
Les micros n'existent pas encore, mais même après leur invention, elle n'en aura jamais besoin.
Quand bien même son talent de chanteuse est déjà acclamé par toute la presse africaine-américaine, elle se heurte toujours au même écueil. La nuance de son teint. On préfère embaucher des métis au teint crème ou, comme le disait Bessie, jaune. Elle-même est sombre de peau, cannelle foncée. On lui refuse parfois du travail à cause de sa couleur de peau, qui a le malheur de figurer en bas du nuancier raciste du sud des États-Unis. Elle en conçoit une rancune tenace, tant sur le plan professionnel qu'amoureux, contre ses filles jaunes qu'elle perçoit comme des rivales. Ce qui lui inspire la chanson « Young Woman's Blues », dans laquelle elle chante sa peau brun foncé de tombeuse, son goût pour le nomadisme, la bonne gnôle de contrebande et les hommes à la peau brune, qu'elle peut tomber autant qu'elle veut parce qu'elle, elle n'est pas une de ces filles au teint jaune. Mama Bessie n'est pas belle selon les canons de l'époque, mais elle rayonne. Elle est grande et voluptueuse, avec un visage ouvert, des pommettes saillantes, un vaste sourire et d'immenses yeux rieurs. Elle est drôle et c'est de notoriété publique une grande gueule. Gourmande, elle aime la cuisine du Sud, les tripes, les pieds de cochon, et elle picole sec. Il lui arrive d'annuler des dates pour soigner une gueule de bois particulièrement récalcitrante. Dans la chanson « Give me a pigfoot », littéralement « File-moi un pied de cochon », elle donne sa voix à Anna Brown, formidable mama de Harlem qui trouve le pianiste franchement inadéquat et réclame à corps et à cri du jean, un joint et un pied de cochon, avant d'enjoindre l'assemblée à bouger son fessier de shim 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 jusqu'à ce que le jour se lève. Bessie est Anna Brown. Elle dit exactement ce qu'elle pense. Elle jouit du présent. Elle est invincible. Give me a big foot and a bottle of beer. Send me Kate, I don't care. I feel just like I want a clown. Give the piano player a drink because he's bringing me down. He's got a rhythm, yeah. When he stomps his feet, he sends me right off to sleep. Check all your razors and your guns. We're gonna be wrestling when the wagon comes. I want a bigfoot and a bottle of beer. Send me calls, I don't care. Slay me calls, I don't care. C'est une époque de bouleversement sociologique et les femmes africaines, américaines libres qui fuient la misère du Sud pour mettre à profit leur talent de chanteuse, découvert au temple ou à l'église, sont l'objet d'une réprobation bien réelle de la part de leur communauté bien-pensante. Les offres d'emploi dans la musique ou le spectacle sont fréquemment suspectes, et la musicienne se retrouve aux côtés de la prostituée, dans des lieux mal famés où elle chante sa solitude et l'injustice faite à sa communauté. Car si elle a des réticences, la réalité du Nord les lui fait oublier. Il est extrêmement difficile de se loger dans un milieu qui profite de la ségrégation pour imposer des loyers exorbitants et remiser la population africaine-américaine dans des quartiers réservés à cet effet. Alors, plutôt que de gagner 10 dollars par semaine à récurer le plancher des Blancs, elle chante et elle danse pour 50 dollars, se forgeant un caractère en acier trempé pour résister aux humiliations dont elle est victime. Par le partage des lieux et de l'ambiance de mœurs relâchées, on finit par la confondre avec celle qu'elle côtoie. Elle incarne alors la femme de mauvaise vie, qui transgresse les règles de la société et de la morale religieuse. Leith Wiper, qui dirigeait leur firme à Newark, voit Bessie Smith sur scène à cette époque dans un club d'Atlanta.
C'était juste une adolescente et il était évident qu'elle ne savait pas quel artiste elle était. Elle ne savait pas s'habiller, elle chantait en tenue de ville. Mais elle était tellement douée qu'elle pouvait enfoncer n'importe qui sur scène. Elle ne gagnait que 10 dollars par semaine, mais les gens lui jetaient de l'argent sur scène et les machinistes ramassaient 3 ou 4 dollars pour elle après chaque représentation.
1920, c'est la prohibition. Il devient interdit de fabriquer, de transporter et de vendre de l'alcool. Bessie, ce qu'elle aime, c'est la gnôle, le moonshine. L'alcool qu'on fait chez soi, un drôle de bourbon artisanal fabriqué au clair de lune, qu'on boit au goulot dans de grands pots, un peu plus haut que des pots de confiture. La loi sur la prohibition ne doit pas changer grand-chose à ses habitudes. C'est l'époque des speakeasy, ces bistrots clandestins aménagés dans une arrière-salle, avec un comptoir escamotable, où l'on joue aux cartes en écoutant du blues, entre gens de bonne compagnie et de mauvais gens. Au hasard de ses tournées, Ali chante parfois avec les copains. Il est encore difficile de faire entendre aux maisons de disques qu'il existe un marché pour le blues vocal féminin. Les voix des noirs ne conviennent pas, leur diction diffère de celle des blanches. Des arguments techniques navrants qui seront balayés en 1920 par le succès commercial du disque That Thing Called Love de Mamie Smith, jeune chanteuse populaire de Cincinnati, malgré le prix relativement élevé du disque, 1 $. Les maisons de disques oublient leur réticence devant la manne financière offerte par le blues féminin et quelques labels spécialisés se créent. Les enregistrements sont payés au forfait. Mais dans le contexte de la musique africaine-américaine, la question de la propriété artistique se révèle complexe, voire inapplicable. Il est d'usage que les blues, même signés, soient repris par d'autres interprètes, en continuité avec une longue tradition orale de citation et d'improvisation. De la même manière que les contes ou les comptines, les blues appartiennent à tous ceux qui s'en saisissent. C'est en 1923 que Bessie Smith enregistre pour la première fois, pour Columbia, son sublime Downhearted Blues. Frank Walker, qui travaillait chez Columbia à la tête du label Race, se souvient d'une débutante tout à fait gauche.
On lui aurait donné dans les 17 ans. Grande, grosse, morte de peur. Une catastrophe. Mais tout ça, on l'oubliait dès qu'on l'entendait chanter. Parce que quand Bessie chantait le blues, c'était vraiment du blues. Le blues, c'était sa vie. Elle avait le blues dès qu'elle se levait le matin et jusqu'à ce qu'elle se couche le soir.
Les raisons qui rendent cet enregistrement si tardif, il a quand même fallu attendre 3 ans après l'avènement du blues vocal féminin avant qu'un disque de Bessie soit enregistré, sont multiples. Elle était toujours en tournée par Mons et Parvaux et il était sans doute un peu difficile de la trouver. Mais on raconte aussi qu'après une première audition, Fred Hager, du label Hockey, avait renvoyé la chanteuse en disant
« Trop grossière ».
Faisait-il allusion au fait qu'elle s'était écriée au beau milieu d'une chanson
« Attendez, faut que j'aille cracher ».
Ou bien à la teneur du texte
« I wish I could shimmy like Sister Kate ».
Littéralement, j'aimerais bien savoir remuer du popotin comme ma sœur Kate. Quoi qu'il en soit, 1923 marque le début d'une longue collaboration avec Columbia, pour lequel elle enregistre 160 morceaux. Essentiellement des blues classiques, dont plusieurs textes de sa composition, et aussi quelques chansons populaires issues du répertoire du vaudeville. Dans l'ensemble, les chansons de Bessie Smith ont le blues. Le blues, c'est l'angoisse d'être au monde, le sentiment face au rien, au néant, à l'absence de sens et à la solitude existentielle. C'est l'angst d'Heidegger. Elle raconte, pêle-mêle, les plaisirs et surtout les déceptions de l'amour, la fête, la danse, l'alcool, la dèche, le voyage, la musique. Ici, elle plaint l'impuissance masculine, dans « You've been a good old wagon »,« T'étais une bonne vieille charrette », et proclame la puissance du désir féminin en décrivant ses exigences sexuelles dans « Do your duty »,« Fais ton devoir ». Ailleurs, elle se targue de son impressionnante collection d'amants et d'amantes. Plus loin, elle chante la jouissance, en amoureuse comblée, et rend hommage à son homme. Dans le répertoire chanté de Bessie Smith, il y a aussi une bonne cinquantaine de titres à l'humour grinçant, absurde ou franchement grivois. Citons Mean Old Bedbugs Blues, le blues de ces foutues punaises de lit, dont le texte, cocasse, nous décrit des punaises de lit, grandes comme des ânes, qui boivent du poison anti-punaise, puis repiquent, hilar, le malheureux possesseur du matelas infesté. Même dans certains blues qui jouent au blues, l'autodérision prend le dessus. Comme dans Thinking Blues, le blues de la gamberge, où la narratrice se réveille, seule et accablée, cherche en vain à retrouver ses divers éléments de vêtements dans ce qu'on imagine être un sacré bordel, se prend les pieds dans le rocking chair et finit par engueuler le chat. En grande prêtresse du blues, elle propose ailleurs une lecture inédite de la Bible dans Preaching the Blues, le prêche du blues. Elle chante que c'est un péché que de piquer le jeune d'une autre. Parce que les femmes, il faut comprendre les African-Américaines, ont déjà la vie assez dure. On vient au speakeasy écouter et voir le blues comme on irait au culte païen du familier, de l'intime. Les difficultés, les chagrins, les questionnements exposés ici traverse toute la communauté. La cérémonie est-elle un rite cathartique pendant lequel on revit et on comprend, on ressaisit ensemble pour s'en débarrasser dans un superbe éclat de rire. Un rire de résistance. Bessie chante au cabaret Oran's à Philadelphie lorsqu'elle rencontre Jack Guy, un de ces hommes à la peau brune pour lesquels elle a un faible si prononcé. Jamais la violence de l'expression « coup de foudre » ne convainc mieux. Le soir où ils sortent enfin en tête à tête, une fusillade éclate dans la rue. Une balle perdue manque de tuer Jack, qui passe les 5 semaines suivantes à l'hôpital. Bessie passe le voir tous les jours. À la fin du séjour de Jack à l'hôpital, ils sont irrémédiablement amoureux. Bessie s'installe chez Jack illico. S'en suivra une cohabitation puis un mariage houleux entre Jack, le gardien de nuit quasi analphabète, et Bessie, la star ascendante. Il s'improvise protecteur, et un jour où il accompagne Bessie négocier un contrat, le ton monte. Son intervention musclée règle le problème. Columbia engage Bessie en nom propre pour 12 enregistrements dans l'année, $1,500. Il n'est pas question de royalties. D'ailleurs, ni Jack ni Bessie ne connaissent ce genre de pratique. Mais ils n'ont jamais vu autant d'argent. Longtemps, Jack s'amuse à faire les comptes, fasciné sans doute par l'extravagance des sommes. Bessie, elle, est décrite comme un curieux mélange de pingrerie et de générosité. Elle pouvait aussi bien refuser de payer une danseuse contre qui elle avait une dent que dépenser sans compter pour payer la caution d'un ami ou ses soins à l'hôpital. La légende veut que Bessie ait rencontré Louis Armstrong, alias Satchmo, abréviation de Satchel Mouth, bouche besace, chez son ami Richard Morgan, l'un des fabricants d'alcool les plus importants du sud de Chicago, qui organisait des fêtes où les musiciens venaient faire des bœufs jusqu'à l'aube. Bessie et Richard s'étaient rencontrés dans le sud. Ils étaient seulement amis à l'époque. Lorsque Bessie s'apprêtait à chanter, Richard faisait le tour des gens et les faisait taire. Personne n'avait le droit de l'interrompre. Pour l'anecdote, un soir que Bessie chante Empty Bed Blues, le blues du lit vide, le neveu de Richard, Lionel Hampton, fond bruyamment en larmes. Son oncle lui dit alors de partir et de ne plus remettre les pieds à ses fêtes. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il est assis dans la cuisine en essayant d'entendre le plus possible de musique depuis sa terre d'exil, Bessie entre, à la recherche de quelque chose à manger. Elle veut savoir ce qu'il fait dans la cuisine. Il lui raconte tout. Elle lui dit qu'il lui a fait le plus beau des compliments en pleurant à l'une de ses chansons. « Reviens avec moi, » dit-elle. Et ce fut la fin de sa punition. Peut-être Bessie et Louis Armstrong se sont-ils vus pour la première fois dans cette même cuisine. En tout cas, un peu plus tard, ils enregistrent ensemble plusieurs duos stupéfiants au cours desquels Louis n'accompagne pas la chanteuse. Il dialogue avec elle, dans un système d'appels et réponses qui semble une conversation animée. Il faut écouter St. Louis Blues, Reckless Blues, Sobbing Hearted Blues ou encore You've Been a Good Old Wagon et Cold in Hand Blues pour comprendre à quel point c'est bien là un duo plutôt qu'un blues vocal assorti d'ornementation instrumentale. D'une deuxième session d'enregistrement en 1925 sortent quatre autres morceaux formidables. Et l'on peut se demander pourquoi Louis et Bessie cessèrent de faire des disques ensemble, car chacun, au travers de cette collaboration, contribue à l'évolution musicale de l'autre, transgressant les limites et créant un style nouveau qui influencera, entre autres, Ella Fitzgerald et Billie Holiday. 1925 est une année mémorable et très occupée pour Bessie. Entre ses enregistrements avec Louis, elle part en tournée dans le sud. À Chattanooga, sa ville natale, où elle chante au Liberty Theatre, elle prend un coup de couteau dans la rue, porté par un certain Buck Hodge. C'est qu'un peu plus tôt ce soir-là, alors qu'elle est en train de manger, elle se lève brusquement pour asséner un formidable coup de poing à l'homme qui importune une de ses danseuses. Sans doute s'est-elle tranquillement rassise pour terminer son repas, pendant que l'homme quittait les lieux, à moitié assommé et profondément humilié. Elle était forte comme un bœuf et connue pour sa violence physique et verbale, réglant au besoin ses différends avec amis, ennemis, amants et employés par la force. Mais l'homme l'attendait à la sortie et lui enfonça un couteau de cuisine dans le ventre. Ce qui n'empêcha pas la chanteuse de remonter sur scène le lendemain après-midi, après un détour par les urgences. Quand une troupe africaine-américaine tourne dans le sud, où la ségrégation est officielle, au contraire du Nord où elle est seulement officieuse, loger à l'hôtel ou manger au restaurant est non seulement malaisé, mais dangereux. C'est une époque d'activité intense pour le Ku Klux Klan. Pour pallier à ces difficultés, Bessie fait l'acquisition d'un wagon qu'elle peut accrocher à n'importe quel train. Un wagon vert et jaune de 26 mètres avec eau chaude, eau froide, salle de bain, cuisine et chambre, dans lequel elle embarque toute la troupe des Harlem Frolics avec le mât central de la tente calé dans le couloir. Dès l'arrivée de l'impératrice et de sa troupe dans une ville, musiciens, comédiens et danseurs déambulent dans les rues, interprétant des formes courtes à la manière des parades de la Nouvelle-Orléans. Puis, comme le joueur de flûte de Hamelin, il mène le public conquis et surexcité vers la grande tente où le spectacle peut commencer. Pour la modique somme de 50 ou 75 cents, suivant qu'on préfère un banc de bois ou un siège confortable. 25 cents? No, no, I wouldn't pay 25 cents to go in nowhere. Une nuit d'été 1927, en Caroline du Nord. Le spectacle bat son plein quand des ombres blanches et pointues se glissent autour du chapiteau et commencent à retirer, un par un, les piquets de la tente. Un musicien les aperçoit et prévient Bessie, qui demande aux accessoiristes de sortir avec elle. Dès qu'ils voient les cagoules, ils font marche arrière. Pas Bessie. Elle s'avance. Un poing sur la hanche, menaçant les clansmen de l'autre, sa voix couvre l'orchestre.
Qu'est-ce que vous venez foutre ici, au juste? Je ferai sortir le chapiteau tout entier s'il le faut. Ramassez vos draps et foutez-moi le camp! Et vite!
Les clansmen, apparemment trop surpris pour bouger, restèrent à la considérer, bouche bée. Bessie leur servit alors une bordée d'injures jusqu'à ce qu'ils finissent par lui tourner le dos et disparaître dans la nuit chaude du sud.
What? You're still here? I told you to get out, fucking man! You take your white thing, you climb on a horse, and you go! Run, run before I'm eating you! Run away now! Get out! Get out!
C'est sur de telles anecdotes que se construit une légende. Cette femme seule, furieuse, tenant tête aux clansmen qui ailleurs torturent et lynchent les Africains-Américains, brûlent leurs maisons et leurs églises, relève de l'imagerie du mythe. Mais Bessie Smith n'était pas qu'une héroïne de légende. C'était une femme puissante, entière et déterminée, hissée à bout de voix hors de la misère. Mais de nombreuses chansons écrites de sa main témoignent de sa mélancolie face à son éternelle errance et de sa quête d'un foyer, d'un homme et peut-être d'une famille qu'elle n'a jamais vraiment trouvée. Son mariage avec Jack Guy se délite. Il ne vient plus la voir au spectacle, seulement quand il a besoin d'argent. Il joue. Elle boit. Il la retrouve au lit avec une de ses danseuses. Lui aussi, d'ailleurs, lui fait des infidélités. C'est pourtant dans cette atmosphère mouvementée qu'elle décide d'adopter Snooks, alors âgé de 6 ans. Elle le connaît depuis qu'il est tout petit. Sa mère est la nièce de l'une de ses danseuses. Elle confie Snooks à Bessie parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour l'élever. Snooks devient alors Jackie Jr. Bessie fait venir ses sœurs, Lulu, Tiny et Viola, qui devraient s'occuper de lui pendant ses tournées. Elle loue 2 maisons voisines pour elle et leur famille. Mais pour Jackie, le coup est rude. Il ne veut partager ni Bessie ni son argent. C'est le début d'une période de coups bas, de scènes et de bagarres, dont le point d'orgue sera la découverte par Bessie de la liaison de Jack avec la pire rivale qui soit. Gertrude Saunders, métisse au teint clair, aux cheveux lisses et à la voix ténue. Lasse, Bessie lui abandonne Jack. Mais elle a le blues, vraiment. Son homme l'a quittée, et la maison de Philadelphie, malgré tous ses efforts, ne sera pas devenu le foyer accueillant dont elle rêvait. Quant à Jackie Jr., pour des raisons difficiles à démêler, il est kidnappé par son père adoptif, récupéré par les services sociaux et placé dans une famille d'accueil. Et Bessie n'arrive pas à regagner la garde de l'enfant. Bientôt, elle doit se débarrasser de son wagon vert et jaune et accepter que son salaire soit réduit de moitié. Les effets de la Grande Dépression, combinés à la révolution qui s'opère dans le monde du spectacle à l'arrivée du cinéma parlant, ont changé la donne. En 1931, la maison de disques Columbia lui signifie son congé. Au lieu des 12 titres prévus dans son contrat, elle n'en enregistre que 8 et reprend la route pour une tournée qui l'emmènera à Chicago, puis dans les petites villes de l'Alabama et de la Louisiane, de février à l'été 1932. Elle vit maintenant avec Richard Morgan, son ami de toujours. Vous savez, celui qui, lors des fêtes qu'il organisait, interdisait à quiconque de parler lorsque Bessie chantait. Elle reçoit aussi, enfin, des nouvelles de Jack Gee Jr. qui, après bien des déboires et des séjours en famille d'accueil, est à nouveau chez son père adoptif à New York et désire vivre avec elle. Bessie et Richard filent à New York et réussissent à le soustraire à la garde de Jack Gee. Elle rentre à la maison, comblée, pour figurer en haut de l'affiche dans un spectacle intitulé Hot Stuff au Lincoln de Philadelphie. Le 24 mars 1933, après 2 ans de silence pour nous qui n'avons que les enregistrements, elle retourne en studio pour enregistrer 4 morceaux. Ce seront les derniers. Et le hasard veut que, 3 jours plus tard, une jeune débutante entre dans le même studio, tremblante et mal assurée, pour faire son premier enregistrement. Elle s'appelle Billie Holiday et reprendra plus tard, tout au long de sa douloureuse carrière, les morceaux de Bessie comme autant de fétiches.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Le 25 septembre 1937, Bessie est à Memphis, Tennessee, engagée sur un spectacle qui parcourt les routes du Sud. Il est environ 1h du matin et le prochain spectacle doit débuter le lendemain à Darling, Mississippi, une petite ville à 20 de kilomètres de Clarksdale, dans le même état. Elle veut prendre la route tout de suite et Richard, qui est avec elle, accepte de faire la bonne centaine de kilomètres qui sépare Memphis de Clarksdale, dans la vieille Packard qu'elle n'a jamais appris à conduire.
«
C'est une belle nuit chaude du sud, où l'on roule vitres ouvertes. Bessie somnole dans la voiture, le bras posé sur la fenêtre. La route est étroite. Seuls les phares de la voiture l'éclairent. Richard percute un camion. Bessie, a le bras quasiment arraché par la violence du choc qui la propulse hors de la voiture, sur la chaussée. Elle a de la peine à respirer, trop mal pour parler. Elle saigne abondamment. Le chauffeur du camion part à Clarksdale chercher une ambulance. Richard reste auprès de Bessie, impuissant. Arrive alors une voiture conduite par un médecin. Il ausculte Bessie et décide que l'ambulance se fait par trop attendre. Son état est extrêmement critique et il faut la transporter d'urgence à l'hôpital. Ils sont en train de dégager la banquette arrière de la voiture du médecin quand une voiture occupée par un jeune couple arrive à vive allure. Elle ne ralentit pas malgré les appels de phare et emboutit la voiture du docteur, qui réemboutit celle de Richard. Quelques temps après, deux ambulances arrivent sur les lieux. L'une, dépêchée par le conducteur du camion, appartient à une compagnie africaine-américaine. Elle transporte enfin Bessie à l'hôpital noir de Clarksdale. Richard est avec elle. Au bloc, on l'ampute du bras. On essaye tout ce qu'on peut pour la sauver, à une époque où il n'existe pas de bon du sang. Bessie, exsangue, n'ouvre toujours pas les yeux. Et puis, sans même qu'on puisse l'entendre, son cœur s'arrête. C'est fini. L'essentiel du texte est tiré de l'ouvrage de Florence Martin sur Bessie Smith, dans la collection Mood Indigo des éditions du Limon.